en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. Ils fêtent leurs 10 ans. C'est en 2007 qu'ils ont sorti leur premier album, un album studio baptisé Cross, comme la croix qui est le symbole de ce duo parisien. Un succès public, succès critique aussi, couronné par un titre de meilleur artiste de musique électronique et un Grammy Award 2 ans plus tard. Deux autres albums studio ont suivi, Audio Video Disco en 2011 et Woman en 2016, sans oublier des albums live, Across the Universe en 2008 et Access All Arenas en 2013. Il n'y avait donc aucune raison que la tournée Woman échappe à la tradition de l'album live, tradition respectée. Un petit détail près tout de même, il s'agit bien cette fois d'un album live, mais sans public, si, je vous assure. Alors ça méritait évidemment quelques explications. Gaspard Roger et Xavier Doronet vont nous les donner. Woman Worldwide, le nouvel album du groupe Justice, est disponible chez Headbanger Because Music, et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Gaspard Roger.
Bonjour.
Bonjour Xavier Doronet.
Bonjour.
Alors faire un live sans public, c'est quand même pas une idée ordinaire, ça. Comment est-ce qu'elle vous est venue?
Ça vient de plusieurs choses. La première, c'était de partager la musique qu'on joue en concert. Mais
vous le faisiez toujours.
Mais que l'attention soit pas portée sur la réaction des gens, mais plus sur la musique. Et c'était aussi une manière pour nous d'aller plus loin et de pousser jusqu'au bout toutes ces choses qu'on peut pas faire en concert. Puisque quand on joue, tous les soirs, on fait des erreurs. On joue jamais parfaitement le set du début jusqu'à la fin. On n'a pas exactement le son qu'on veut puisqu'on est limité par le setup qu'on utilise. Et puis, c'était aussi aller jusqu'au bout de cette démarche qui est de partager la musique avec les gens dans les meilleures conditions possibles. On savait qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient frustrés sur nos deux précédents albums live de pas entendre vraiment la musique puisqu'il y avait beaucoup de bruit de public.
De scories, on va dire. Ça veut dire que vous n'étiez pas satisfait de la qualité sonore des deux albums précédents? On peut aller jusqu'à là?
Si, en fait, c'était le parti pris de rendre ces deux disques les plus immersifs possibles. Et ça, que c'était presque plus comme des enregistrements pirates d'un concert où en fait il y avait un son très brut, beaucoup de bruit de public, et ça participait au côté très vivant de ces deux disques. Mais là on voulait que comme disait Xavier, le focus se fasse sur la musique et que ces morceaux qui se trouvent être une sorte de best-of de nos 10 ans de carrière dans des versions nouvelles. Soit écouté de manière plus sereine. Voilà.
Mais pour Justice, la scène, c'est vraiment le lieu d'expérimentation par excellence?
Non. On fait beaucoup plus d'expérimentation en studio que sur scène. Finalement, la scène, c'est le moment où on prend la liberté de transformer nos expériences de studio, qui sont assez égoïstes, en musique qui est vraiment ouverte vers le public et qui est là avant tout pour les gens. Alors que nos albums sont faits avant tout pour nous.
Mais qu'est-ce que vous cherchez à faire quand vous montez sur scène? Vous voulez d'abord faire un show? Vous voulez d'abord proposer quelque chose de différent par rapport aux albums live? Vous voulez rentrer en communication directe avec le public? Qu'est-ce qu'il y a dans votre tête quand vous êtes sur scène?
C'est principalement faire plaisir aux gens. Enfin, pour le coup, comme disait Xavier, le studio, c'est une expérience très égoïste où on le fait pour se plaire à nous-mêmes. Et le live, c'est vraiment, on essaie de proposer le spectacle le plus divertissant possible, et ça passe par une adaptation de nos morceaux qui est beaucoup plus directe, beaucoup plus efficace aussi en termes de son.
Divertissant de manière exigeante quand même, c'est en étant le plus exigeant possible. Et il y a le plaisir instantané, mais surtout le fait qu'ils s'en souviennent après, parce que c'est quelque chose de, enfin c'est une chose de faire danser les gens ou de les faire hurler, qui est pas forcément très difficile à faire. Mais le but, c'est qu'ils s'en souviennent après, et que si ils sont allés à un festival, qu'ils se souviennent de ce concert-là avant les autres.
Quelle est la part que vous laissez à l'improvisation?
Elle est très très minime. C'est un spectacle, c'est un show qu'on écrit pendant des mois, et qu'on continue à écrire une fois qu'on en tournait, puisqu'on adapte toujours en fonction des réactions des gens, on arrive à comprendre comment on peut l'améliorer. Donc il atteint sa forme définitive en général au bout d'un an et demi, et comme rien n'est pré-programmé et synchronisé mécaniquement et électroniquement, entre notre éclairagiste, la personne qui est plus à la machinerie, et nous, on peut pas se parler en fait pendant le concert, donc il faut qu'on sache tous exactement ce qu'on va faire à la demi-seconde près, pour que toutes les choses aient l'impression de faire qu'un et soient synchronisées.
Et ça arrive qu'il y ait des bugs.
À tout le temps.
À tout le temps, d'accord.
Ouais, on n'a jamais fait un concert où tout se passait bien au début jusqu'à la fin.
Alors j'ai lu qu'il y avait une sorte de malédiction parisienne, qu'à chaque fois que vous produisiez à Paris, il y avait un gros souci. Ça s'est passé comment, la Rock en scène, il y a quelques jours?
C'est une grande première pour nous. La malédiction a été levée. On peut rejouer à Paris sans problème technique.
Non, ça s'est très bien passé, mais c'est la première fois.
Voilà, donc le karma est en train de changer pour Justice à Paris.
Ah, ça tourne vite. Hein.
Alors, bon, faut se méfier, vous avez raison. Alors, pour ce nouvel album live, on disait donc un album sans public, donc vous n'avez pas enregistré vos morceaux en public, mais pendant les répétitions.
On les a enregistrés en public,
mais on n'entend pas le public sur l'album.
Non, mais comme on est en ligne directe, ça prend pas... Il faut des micros, en fait, pour capter le son du public.
Oui.
Et on a enregistré des répétitions aussi, puisque on voulait avoir le plus de matière possible. Et aussi, on fait pas les choses exactement pareil en répétition que face à des gens. Et il y a des choses, par exemple, qui n'auraient pas de sens si on retire justement les réactions du public. Donc on a fait les deux. Et après, on a remonté tout à Paris en prenant les meilleures prises de chaque morceau et en enlevant toutes les erreurs. Et en fait, le but, c'était pas tant de faire un album live que de faire une sorte de best-of de Justice. De nouvelles versions des morceaux avec un son d'album, en fait.
Mais c'est quoi les meilleures prises? Comment est-ce que vous les choisissez? Quels sont les critères, les petits détails qui vous permettent de dire ça on prend, ça on prend pas?
La fluidité, ça c'est un gros truc. Quand nous on est synchronisé aussi sur ce qu'on fait, sur le traitement des pistes et des choses comme ça, sur les parties qu'on joue, juste si elles sonnent bien ou si on n'a pas fait d'erreur. Parce que même si on le joue continuellement, il y a toujours un moment où on décroche un peu, où c'est pas exactement comme il faut.
Et vous êtes toujours d'accord tous les deux? Il y en a un qui prime? Parce que c'est vraiment un travail que vous faites tous les deux, ou bien c'est vraiment un travail d'équipe avec la maison de disques, avec les managers, etc.?
Pour le coup, la musique, ça a toujours été entre nos mains. Et après, évidemment, quand on fait des concerts, on a toute une équipe, on est à environ... une petite trentaine sur la route. Et pour l'élaboration du show, évidemment, on s'est entouré de techniciens, de constructeurs, d'ingénieurs.
Et pour la fabrication du disque?
Mais pour le choix des prises,
c'est vraiment vous deux.
Et on est toujours d'accord, puisqu'entre une mauvaise prise et une bonne, généralement, il n'y a pas photo.
Il n'y a pas photo, ouais. Donc il n'y a pas vraiment de débat entre vous.
Non.
Et au final, ça donne ça. Tout le monde aura reconnu l'un des plus gros tubes de Justice, D-A-N-C-E, remixé donc pour ce double album Women Worldwide, évidemment aussi disponible en digital et en édition 3 vinyles. C'est peut-être l'un des morceaux qui a le plus marché à travers le monde, ce D-A-N-C-E. Comment est-ce que vous avez, avec le recul, analysé, comment est-ce que vous avez ressenti plus exactement ce phénomène?
Mais c'est un mystère pour nous, même, enfin, même encore aujourd'hui. À l'époque, on l'avait sorti en single, en premier single de l'album. Pas parce qu'on pensait que ce serait un tube, mais par réaction à ce qu'on avait sorti avant, qui était très bruitiste et très violent et plus métal, entre guillemets. Et c'était pour le prendre le contre-pied et faire une dernière surprise avant que l'album sorte pour tous les gens qui se demandent un peu ce qu'on allait faire. Encore maintenant, on ne comprend pas pourquoi le morceau a fonctionné comme ça. C'est pas vraiment un tube, puisqu'on n'en a jamais vendu des milliards, mais de ces petits tubes.
Alors, parlons concrètement, justement. Prenons l'exemple de ce morceau qu'on entend. Comment est-ce que vous avez fonctionné? Vous aviez donc ces enregistrements, donc réalisés en concert et en répétition. Comment est-ce que vous avez procédé ensuite en studio pour les retravailler?
On a enregistré tout en pistes séparées. Celui-là, par exemple, le principal élément qui pouvait ne pas fonctionner, enfin les deux principaux, c'était que les voix soient mal calées, puisque les voix sont envoyées en live, et que le piano soit pas très bien joué, parce que c'est Gaspard qui joue le piano sur ce morceau-là.
Oui, donc il joue plus mal que...
Non,
ça peut être mal compris,
disons que ça fait partie des risques potentiels, voilà, de mauvaise prise.
Mais en l'occurrence, celui-là, il est quasiment pas transformé, toutes les prises presque étaient bonnes, il y a pas grand-chose à faire dessus. Et après, c'est juste le mixer en utilisant des outils auxquels on n'a pas accès sur scène, puisque ça demande trop de ressources, de puissance de calcul. C'est des détails très très techniques, mais voilà, c'est des trucs d'équalisation du piano... Des effets sur le piano qu'on peut pas avoir exactement comme on veut, donc ils sonnent beaucoup plus bruts quand on voit des concerts, ce genre de choses-là.
Mais donc sur scène, il n'y a pas d'instrument de musique avec vous, alors qu'il y a certains autres musiciens électro qui utilisent comme ça des musiciens en live.
Maintenant, il y a plein d'instruments de musique. On a, je sais pas, 10 claviers, quand même pas mal de machines. Si, il y a des instruments.
Et vous vous en servez aussi pour composer?
Oui, c'est fait que avec instruments de musique, la composition, bien sûr.
Voilà. Vous jouez de quoi exactement l'un et l'autre, Xavier?
De la guitare, de la basse, du piano, de la batterie.
Et l'inspiration, elle vient comment? Elle vient d'abord en écoutant les autres, ou elle vient d'abord de ce que vous savez faire vous-même?
Elle vient d'une espèce de dialogue entre Gaspard et moi, où on part de choses très très simples. Chaque morceau part vraiment toujours de quelque chose de très très embryonnaire, et après c'est à l'un et à l'autre de réagir, et ça fonctionne vraiment que comme ça, en fait, même parfois sur une note répétée, mais juste avec une intention un peu spéciale. Gaspard va faire une suite d'accords. Moi, je vais changer les deux derniers accords. Et il va me dire, non, attends, en fait, l'avant-dernier peut être comme ça. Et là, on a un truc qui commence à marcher. Et après, on va commencer à écrire des lignes de voix. Et si c'est bon, on écrit des paroles. Et après, on commence à produire. Enfin, c'est vraiment un dialogue.
Alors, j'ai lu que vous avez vécu 8 ans sous le même toit. C'est
oui,
vrai.
Oui.
Ça aide pour travailler ou c'est un problème?
Ben non, ça aide. C'est très pratique.
Quand, à la grande époque, on faisait de la musique sous le lit superposé de Xavier.
Enfin, maintenant, on n'habite plus dans les mêmes, au même endroit. Mais quand on fait un album, on finit par. En ce moment, le studio est chez moi, donc on vit chez moi tous les deux pendant 1 an et demi.
Et quel est le bilan que vous tirez de ces 10 ans? Est-ce que le son de Justice a changé?
Oui, bien sûr, il change à chaque disque. Il change tous les 6 mois, en fait, le son de Justice. Nous, on n'a pas de son particulier. Je pense que ce qui fait le lien entre les morceaux, c'est une espèce de sensibilité un peu harmonique ou une manière d'entremêler un peu les éléments entre eux. Enfin, c'est pas une constante. Il faut qu'il change à chaque morceau et à chaque disque parce que il est lié à l'époque.
Mais à l'époque, c'est-à-dire, il est lié à l'ère du temps, à l'évolution de la technique? Gaspard Auvu?
Oui, bien sûr. À chaque fois qu'on recommence à écrire un disque ou à concevoir une tournée, tous les éléments technologiques qui sont à notre disposition sont à redécouvrir et à appréhender. Donc on est toujours obligé de se tenir informé de ce qui se fait à ce niveau-là. Même de manière très inconsciente, tout ce qui rentre dans nos yeux et nos oreilles, est forcément redigéré. Mais même si quand on est en période d'écriture, on est un peu coupé du monde. On est toujours influencé par l'air du temps, bien sûr.
Chorus, c'est le 11e titre de ce double album Women Worldwide de Justice. Le duo parisien que forment Gaspard Auger et Xavier Doronet est avec nous aujourd'hui. Et parallèlement à ce nouvel album, il y a aussi Chorus VR. VR comme Virtual Reality, réalité virtuelle. Parce que vous êtes aussi lancé dans une aventure vidéo, un clip particulièrement original. Vous nous racontez ce projet?
Il y a 3 ans à peu près, Chris Milk, qui est un réalisateur américain, et qui est aussi passionné voilà de réalité virtuelle et de nouveaux médias, nous a contacté par l'intermédiaire de Romain Gavras.
Qui avait tourné un documentaire sur la tournée.
Voilà, et avec qui on avait fait Stress aussi.
Woman.
Il voulait faire quelque chose avec nous, et c'était le moment où on finissait Woman, et donc on lui a fait écouter Chorus, et il nous a dit « Ah, on pourrait faire un truc de réalité virtuelle ensemble ». Il a commencé à nous exposer des idées, et en fait c'est le moment où on est parti en tournée, donc on n'a plus trop eu le temps d'échanger avec lui. Il nous a dit, les gars, vous n'avez pas le temps, laissez-moi 1 an et demi ou 2 ans et je reviens vers vous plus tard. Et en fait, pendant cette année et demie, ils ont développé ce software en fait de réalité virtuelle, cette espèce de film qu'ils nous ont montré. Et c'est un bon exemple de choses qui se déroulent bien parce qu'on n'est pas impliqué dedans. On est très impliqué dans la plupart des choses qu'on fait et pas toujours pour le bien du projet.
Ah bon?
Non, mais on a tendance à être un peu tentaculaire.
Ouais.
Et il faut
vous calmer un petit peu, alors.
Non, mais spécialement dans un projet comme ça, qui est si éloigné de notre esthétique, en tout cas de ce qu'on aime généralement, on n'y connaît pas grand-chose en VR ni en jeu vidéo. Et je pense qu'on aurait ralenti la marche du projet. Et là, c'est bien qu'ils l'aient fait de leur côté. Ils nous ont présenté le truc fini, qui était séquencé parfaitement sur la musique. Et malgré l'esthétique qui était si éloignée de nous, ça fonctionnait bien et c'était parfait qu'on soit pas avec eux.
Mais techniquement parlant, est-ce que cette expérience-là pourrait vous inspirer pour mettre en lumière, mettre en scène de futurs concerts?
Non, parce qu'on finalement on est assez on est très conservateur et c'est vrai que nous on n'est pas du tout multimédia pour si c'est ce mot un peu drôle, et pour nous les disques, on les aime format normal 70 minutes, 60 minutes pas de... les clips c'est pareil pour nous c'est 2D, moi j'aime bien aller voir des films en 2D aussi, la 3D ça ouais. Me donne mal à la tête.
Et vous croyez toujours donc au format du disque matériel et pas uniquement au digital? C'est important de le sortir aussi,
on y croit,
on peut se tenir en main.
Ouais, mais c'est surtout que nous c'est ce qui nous donne envie de faire des disques même si c'est plus le format principal de vente, mais c'est pas très grave.
Merci beaucoup à tous les deux et bon anniversaire. Alors, l'album Women Worldwide disponible chez Headbanger Because Music, et je précise que vous partez en tournée aux États-Unis hein, puisque vous serez du 21 au 23 septembre à Las Vegas, du 5 au 7 et du 12 au 14 octobre à Austin, Texas. Merci.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI. Main d'œuvre. Margot BD. Aujourd'hui, je suis
la nurserie du cinéma.
Là, je suis en train de préparer des bébés un petit peu en avance pour le coup. Comme on en a en silicone, mais qu'on n'en a pas encore en plastique vinyle d'une certaine taille, donc là c'est une taille de prématuré, j'en prépare un pour en avoir un au cas où. Alors. Je m'appelle Julie Barrère et je suis accessoiriste effets spéciaux pour le cinéma spécialisé dans les bébés. Ça, c'est une préparation pour que ma peinture pour le vinyle puisse accrocher sur cette matière-là. Alors, j'ai des pinceaux, ils sont plutôt fins. On en a des très très fins comme celui-ci qui, on dirait qu'ils ont un peu 3 poils. assez longs, qui sont faits par exemple pour tout ce qui est sourcils, petits cheveux, petits duvets qu'on va peindre, puisque le reste des cheveux, on va les implanter. D'abord, on fait toute la couleur du bébé, on va lui donner ses rougeurs, on va lui mettre ses petites veines aussi, on fait les petits ongles sur les bords blancs, les choses comme ça. En fait, c'est dans ces petits détails-là que ça joue de réalisme. Ça, c'est le placard, c'est un des placards magiques. C'est le placard où on range toutes les affaires de routing. Donc, le routing, c'est le mot en anglais pour dire l'implantation de cheveux. Donc, on utilise du mohair. On peut utiliser n'importe quoi. Hein. On peut utiliser du faux cheveu en plastique, du vrai cheveu. de la laine, du poil de chien, on peut implanter n'importe quoi. On a plusieurs sortes de mohair et d'alpaga. Ça, c'est du. Donc, le mohair, c'est de la chèvre. Et l'alpaga, c'est du lama. Ce sont des poils qui sont extrêmement fins, qui sont les plus proches du cheveu de bébé. Nos poils sont implantés un à un avec des aiguilles particulières. Donc, une fois qu'on a fait notre bébé, qu'on l'a peint et qu'on lui a mis des cheveux, on va l'assembler. Donc, on le fourre, comme dirait Maïté. On laisse pas que le corps, on laisse aussi les bras et les jambes avec des billes de verre. Et ça permet de donner un poids aux membres, puis un poids à tout le corps, et donc que les bras aient tendance à tomber si jamais ils sont pas tenus, qu'ils restent pas bloqués par exemple en l'air. S'il est trop léger, en fait, on va pas avoir la même façon de le porter. Et pour les acteurs qui vont devoir jouer avec, ça va être difficile de faire semblant d'avoir un bébé un peu lourd si celui-ci est très très léger. Donc celui-là, il va partir, on le met dans sa caisse. C'est parti, maintenant il va tourner, c'est la star de la journée. De le voir sur le tournage, c'est génial. Encore mieux, c'est d'aller au cinéma et de voir un de ces bébés et de se dire qu'on les voit en gros plan, animés, par exemple avec de la 3D dessus, et on se dit on a bien réussi notre travail parce qu'ils vont l'exploiter au maximum.
Aujourd'hui, j'étais la nurserie du cinéma.
Café gourmand, vous m'en direz des nouvelles.
Avec cette semaine, Sébastien Schuedor, Fanny Blechner, Margot Bédé et Alain Pilot, bonjour.
Bonjour Jean-François.
Bonjour Jean-François.
Marvin Gaye, Ray Charles ou John Lennon, le célèbre musicien français Jean-Jacques Milteau revisite certains standards de la soul et du blues, mais pas que Alain, aux côtés du Canadien Harrison Kennedy et de l'hexagonal Vincent Segal.
L'album s'intitule Cross Border Blues et sort ce 14 septembre.
Dans un instant, Sébastien, vous nous emmenez au cinéma ?
Oui, pour le film Fortuna qui offre un regard profond sur une question qu'on croyait maintes fois rebattue, la question de l'accueil des réfugiés. Nous partirons dans les Alpes suisses à 2000 mètres d'altitude.
Nous irons également au théâtre cette fois avec vous. Fanny, vous avez assisté à une pièce pour le moins glaçante.
Asphalt Jungle, la manufacture des abbesses, une œuvre sur les mécanismes de la violence. Quatre hommes sont sur scène avec des rapports de force qui nous échappent. J'en suis sorti le souffle coupé, je vous raconterai.
Et c'est en France que nous allons commencer ce Café Gourmand. Il a débuté le 3 septembre dernier, le grand loto du patrimoine. Certains ont reconnu la musique sera dévoilée ce soir avec un tirage à 20h45 sur TF1. À la veille du week-end des journées du patrimoine, il est doté d'un jackpot de 13 millions d'euros. Sa particularité, pour chaque ticket acheté, 1,50€ sera reversé à la fondation du patrimoine. L'objectif, Margot, c'est de sauver des sites en péril.
270 sites au total ont d'ailleurs été sélectionnés. Parmi eux, 18 monuments dits emblématiques seront aidés en priorité, et ces 18 sites devraient recevoir entre 10 000 et 1 million d'euros chacun.
Est-ce que vous avez joué, Margot ?
Alors non, pas encore, mais je me suis rendue...
Il y a encore un petit peu de temps. Hein.
Voilà, j'ai encore un petit peu de temps, mais je me suis rendue quand même dans un point de vente où j'ai rencontré une joueuse passionnée d'histoire.
Oui, voilà, s'il vous plaît, un ticket mission du patrimoine.
Et c'est Emeline que vous entendez, jeune charentaise de 27 ans qui m'a confié vouloir, elle aussi, c'est elle qui a trouvé la formule, apporter sa pierre à l'édifice. Elle en a choisi un d'ailleurs en particulier.
C'est la maison de Pierre Loti à Rochefort. Alors non pas que ce soit ma région et que ce soit mon coin, mais c'est que c'est surtout le bâtiment qui m'a le plus touchée quand j'étais petite. Mes parents m'ont toujours emmené visiter des châteaux et je sais pas pourquoi, la maison de Pierre Loti, je me souviens parfaitement quand on y est allé, et j'ai été émerveillée par ce lieu, par ce grand voyageur qui, en fait, dans cette toute petite maison, te fait découvrir des centaines de cultures différentes et te fait voyager tout autour du monde. Il était complètement excentrique. Et aujourd'hui, c'est un monument qui est pas sur la liste des priorités, et j'ai envie de participer à ce souvenir d'enfance et à ce lieu qui m'a vraiment pour le coup fait découvrir le patrimoine et donné envie d'aller découvrir et pousser d'autres portes de bâtiments.
Eh bien, pour ma part, comme vous pouvez l'entendre, j'ai poussé la porte d'un de ces monuments en danger. C'est d'ailleurs le site qu'Emmanuel Macron a choisi de visiter demain pour le week-end du patrimoine. La villa Viardot à Bougival dans les Yvelines, la villa de Pauline Viardot, l'une des plus grandes musiciennes du 19e siècle. Elle se situe juste en face de la maison de Georges Bizet qui a composé l'opéra Carmen, comme vous le savez. J'ai eu la chance d'avoir pour guide le baryton Georges Chaminet qui a porté le projet de restauration de la villa. Lui, ça fait 18 ans qu'il se bat pour la survie de ce lieu. Un lieu qui a vu passer Gustave Flaubert, Victor Hugo, Alexandre Dumas ou encore Guy de Maupassant. Mais un lieu qui, sans ses fresques, aurait pu disparaître.
Quand je suis arrivé la première fois donc dans cette maison, j'ai été frappé déjà par l'état de délabrement, mais j'ai été frappé tout de suite par la qualité des fresques. Donc il y a des fresques merveilleuses, avec des plafonds qui représentent des beaux cieux, mais aussi des fresques néo-pompéiennes qui ont résisté au temps. Donc je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Et donc nous avons combattu pour que ces fresques soient inscrites à l'annexe du patrimoine. On a obtenu cela en 2001. C'était une grande victoire parce que je savais que, à cause de cela, on ne pourrait plus faire de mal à cette maison.
Alors vous noterez, Jean-François, que si ce lieu a accueilli les plus grands intellectuels du 19e siècle, ce sont bien des fresques qui auront, entre autres, permis sa conservation.
Alors quel est le projet autour de cette villa ?
Alors vous faites bien de le souligner, il ne s'agit pas de simple restauration. Ça faisait partie d'ailleurs des critères de sélection des sites à restaurer. Il devait avoir un projet suffisamment mature, avec une vocation de maillage du territoire, et devait aussi contribuer à l'économie locale, évidemment. Alors ce sera le cas de la villa Viardot, qui deviendra le centre européen de musique. Le complexe de 8000 mètres carrés intégrera un auditorium, un laboratoire d'études sur les effets de la musique sur le cerveau, une agora des cultures musicales du monde, ainsi que la maison de Georges Bizet. Un lieu très vaste, vous l'aurez compris, qui devrait voir le jour, allez, pour les optimistes, en 2020.
Et tout ça devrait coûter au bas mot 1 million d'euros.
Oui, même un petit peu plus.
Sans doute,
ouais. Alors, après, faut savoir que le loto n'a pas vocation à financer le Centre européen de musique. C'est uniquement la restauration de la villa Viardot. Mais vous avez raison, Jean-François, 600 000 euros devraient revenir à la villa, alors que le coût global de la restauration a été estimé à 3 millions d'euros. Donc on en est loin. Mais comme me l'expliquait Georges Chaminet, si les recettes restent minces, le loto permet aussi à ce patrimoine une plus grande visibilité.
C'est absolument fondamental que les Français aient conscience que ils ont un patrimoine exceptionnel, mais en même temps qu'il faut prendre la responsabilité de ce patrimoine. Et je pense que c'est à la société civile de prendre également ses responsabilités.
D'autant que ce patrimoine ne se porte pas très bien aujourd'hui, hein, c'est ce que m'a expliqué Célia Véro, la directrice générale de la Fondation du patrimoine.
Il faut quand même reconnaître qu'il y a une masse très importante de bâtiments dans toutes nos régions et que notamment ceux qui sont entre les mains de propriétaires publics ou privés, des communes, des petits propriétaires privés qui n'ont pas les moyens de les restaurer, ils sont en train de se dégrader rapidement pour deux raisons. D'une part, les travaux sont quand même très coûteux et d'autre part, ces travaux, ils étaient possibles grâce à des tours de table financiers, c'est-à-dire des subventions de plusieurs organismes publics. C'est plus difficile aujourd'hui de finaliser ces tours de table, on a besoin de les compléter avec du mécénat. Et aujourd'hui, il faut trouver de nouvelles ressources pour le patrimoine. La première de ces nouvelles ressources financières, ça sera les jeux pour le patrimoine. Mais il faut aller chercher encore d'autres ressources, mobiliser plus de mécénat. L'acte de don, c'est aussi une manière très pratique et facile de soutenir le patrimoine. Et on travaille avec Stéphane Bern à d'autres idées pour procurer de nouvelles ressources.
Château, église, moulin, théâtre, fontaine et j'en passe. La mission patrimoine a déjà permis d'identifier partout en France près de 2000 sites en péril.
Et le coût total des travaux est estimé à 2,5 milliards d'euros.
Et pour question, oui, puisqu'on parle d'argent, on n'a pas parlé du prix du ticket.
Ah bah oui, c'est important.
Ah oui, vous faites bien de le souligner. Alors, les tickets mission patrimoine qui sont assez grands et qui sont à 15 euros. Et sinon, la grille de loto qui est à 3 euros.
Et sachez qu'un deuxième loto est d'ores et déjà prévu en 2019. Merci Margot.
Je veux rester ici.
C'est pas un endroit pour toi ici. Je t'ai déjà expliqué.
Cinéma à présent dans VMDN avec un film qui nous emmène dans les Alpes suisses au cœur d'une communauté de chanoines qui accueille des migrants. Le film s'appelle Fortuna. Il est signé du Suisse Germinal Rohe. Il sort mercredi prochain, Sébastien. C'est un film fort, aussi bien sur le fond que sur la forme.
Oui, dans ce film, il y a des décors superbes et des questions importantes soulevées par des interprètes habités par leur rôle. La jeune actrice éthiopienne Kidiste Siyum Beza, elle a 19 ans, et l'acteur suisse Bruno Gantz, 77 ans pour ne citer que deux. Le film est né d'un sentiment d'impuissance ressenti par Germinal Rohe devant un énième naufrage en Méditerranée. Quel est ce monde où des eaux limpides se tachent de sang? Qu'est-ce que je peux faire? S'est demandé le réalisateur.
Depuis des années, on entend parler de ces migrants qui traversent la Méditerranée. On se sent très impuissant face à ça. Et il se trouve que ma compagne travaille aussi avec des mineurs non accompagnés à Lausanne, en Suisse, dans des classes d'accueil. Et grâce à elle, j'ai rencontré des jeunes adolescents, des jeunes mineurs qui venaient d'arriver en Suisse. Leurs destins m'ont tellement touché, bouleversé, que j'ai eu envie de parler d'eux et de faire un film pour eux et pour nous.
Fortuna, c'est une fiction, mais l'accueil de réfugiés par une communauté religieuse isolée à flanc de montagne, ça part d'une histoire vraie, Germinal Rohe.
Pendant la première phase d'écriture, un jour dans la presse, j'ai lu que le monastère d'Einsiedeln en Suisse allemande, c'est un grand monastère dans lequel il y a une célèbre vierge noire. Ce monastère a décidé d'ouvrir ses portes pour accueillir des réfugiés parce que tous les centres d'accueil aux alentours étaient complets partout. Je me suis dit, voilà, c'est un très beau cadre, c'est intéressant, et ça m'a tout de suite fait penser à cet hospice du Simplon, qui est un lieu que je connaissais depuis longtemps, qui est un lieu magnifique, quoi, à la frontière entre l'Italie et la Suisse, à plus de 2000 mètres d'altitude. Et je me suis dit, voilà, c'est vraiment le lieu parfait, ce lieu, cette frontière géographique entre l'Italie et la Suisse, mais aussi cette frontière entre la terre et le ciel, d'une certaine façon. Je me suis dit, c'est l'endroit parfait pour raconter cette histoire.
Mais avec toutes ces années passées ici, à réfléchir sur la vie, sur l'homme, j'ai réalisé que parfois notre vision de ce qui est bon ou juste ne l'est pas forcément pour l'autre.
Au départ, il a fallu convaincre les moines de cet hospice du Simplon en Suisse d'accueillir un tournage. C'était pas évident, ils ont demandé à lire le scénario avant d'accepter.
Et le fait que l'action se passe dans une communauté religieuse donne une vraie profondeur au débat sur les réfugiés.
Oui, Fortuna, c'est un film qui prend le temps de la réflexion sans jamais lasser le spectateur. Il y a une phrase du Christ dans l'évangile de Matthieu qui revient souvent. « J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. » Mais voilà, les moines restent des hommes et comme tout un chacun, ils se demandent si leur vie quotidienne faite de prières n'est pas trop bouleversée par la de ces jeunes réfugiés.
Je crois que le moment est venu de se parler.
On est tous un peu perturbés par ce qui se passe ici.
Est-ce qu'on est prêt à sacrifier une partie de ce qui nous est le plus cher? Notre silence et notre solitude.
C'est une question qui se pose à nous tous en réalité. Cette difficulté d'ouvrir sa porte, de partager, la solidarité, on le voit bien, elle n'est pas évidente aujourd'hui. C'était pas tellement le côté religieux qui m'intéressait, mais en tout cas ce climat-là, ce lieu-là permettait de poser des questions qu'on n'aurait pas vraiment pu poser ailleurs. Donc voilà, ce lieu-là permettait ça. C'est des hommes de foi, mais en même temps, le personnage interprété par Bruno Gantz, j'ai essayé de ne pas en faire un religieux coincé dans les dogmes, mais voilà, un humain qui se pose des questions, comme nous tous, et qui essaye de dépasser certains a priori ou certaines difficultés, justement, dans l'accueil.
Bruno Gantz et les autres acteurs qui ont passé un peu plus d'un mois de tournage à 2000 mètres d'altitude.
Oui, on imagine le dépaysement hein, pour l'actrice éthiopienne Kidiste Siyum Beza.
Lors d'un casting à Addis Abeba, oui, c'est son deuxième film après Lambe de Yared Zedeke.
Switzerland, film où il y a Tessarro.
Tout s'est bien passé, sauf qu'il faisait quand même un peu froid dans les Alpes suisses. Mais la difficulté, ce n'était pas seulement le froid. Pendant le tournage, j'étais loin de chez moi, loin des miens. Je ne connaissais pas les gens, je ne connaissais pas le pays. Petit à petit, j'ai quand même réussi à m'habituer.
Les Logan, Malet, but I'm a good Switzerland, but I'm a good make-up.
Et Fortuna est filmé dans un noir et blanc absolument somptueux, Sébastien.
Oui, et à l'heure où on est assailli comme ça par les flots d'images permanents, d'images assez vulgaires, ce noir et blanc aide à la réflexion. Germinal Rohe, le réalisateur, a toujours tourné en noir et blanc.
C'est devenu ma langue. J'ai toujours travaillé comme photographe en noir et blanc et au cinéma aussi. C'est comme ça que je m'exprime le mieux. Ce noir et blanc, c'est philosophiquement, je trouve que c'est un médium très intéressant. Cette recherche de la lumière, ce travail sur la lumière et en même temps aussi cette gamme de gris qui se développe entre la plus profonde obscurité et la lumière pure. Il y a beaucoup de choses à dire. Je trouve aussi que le noir et blanc, c'est d'une certaine façon une image qui n'est pas terminée. C'est comme si c'est une image un petit peu incomplète par rapport à notre vision habituelle de la réalité. Et c'est une image qui a besoin d'être complétée par le regard du spectateur. Et ça m'intéresse aussi beaucoup, même dans la narration et dans l'écriture du cinéma, de travailler sur cette question-là, de comment on implique le vécu et du spectateur dans une histoire. Ce film-là, il est aussi très contemplatif, il y a beaucoup de silence, il y a beaucoup de place justement pour la réflexion et pour permettre à chacun de réfléchir.
Faire réfléchir, mais sans nier les émotions, c'est peut-être ça la recette d'un grand film. Mm-hmm. Fortuna de Germinal Roux a obtenu l'Ours de Cristal au dernier festival de Berlin.
Sébastien Gédor dans le Café Gourmand de VMD.
C'est complètement con, votre jeu. C'est pas vraiment un jeu. Frappe. Ça n'a pas de bon sens.
On s'en fout.
Vraiment ?
C'est ça qui est bien.
Frappe, on me dit. Ça nous fait plaisir.
Ce qu'on vient d'entendre, Fanny, c'est donc un extrait d'Asphalt Jungle.
Oui, c'est le nom de la pièce qui se joue en ce moment à la Manufacture des Abbesses à Paris. Sur scène, 4 hommes, 2 d'entre eux essaient de convaincre un troisième de frapper sur le dernier, de passer à tabac même. On a donc apparemment 2 personnes sous l'emprise de 2 autres qui jouent avec leurs nerfs et leur vie. Les motifs, on ne les connaît pas, l'identité des personnages non plus. Ici, on découvre en fait une réflexion sur les mécanismes de la violence, comme nous l'explique l'auteur du texte, Sylvain Levet.
C'est une pièce sur comment quelqu'un de lambda peut d'un seul coup devenir un bourreau, un complice d'un bourreau. Il n'est pas forcément comme ça au départ, mais peut-être qu'il n'ose pas, peut-être qu'il n'a pas les capacités de dire non, peut-être qu'il n'a pas l'envie aussi ou le courage, mais c'est vraiment cette mécanique de comment on peut passer du simple citoyen au bourreau, en quelques minutes finalement.
Alors où se trouvent ces 4 personnages?
Bien, difficile à dire, le décor est plus qu'épuré, il n'y a que 2 chaises et des lumières qui renforcent le côté très cru de la pièce. Les 4 hommes sont habillés en costume, on a presque l'impression d'une sortie de bureau. C'est un choix du metteur en scène, Laurent Mindon.
Le choix des costumes, il s'est déterminé aussi sur l'envie que les spectateurs puissent reconnaître sur scène leurs voisins, leur famille, etc. C'est-à-dire qu'en fait, ce que nous on souhaite à travers ce spectacle, c'est que les gens se rendent compte qu'à n'importe quel endroit qu'on prenne ce texte, toute personne peut se considérer impliquée dans cette histoire. Donc, il faut qu'il y ait des éléments suffisamment lisibles pour le spectateur pour qu'il puisse s'imaginer que ça pourrait très bien être lui qui est dans cette situation. C'est les gens qu'on croise dans le métro, quand on va faire ses courses au supermarché. Ces gens-là, ils appartiennent pas à un groupe spécifique social. Ils sont pas identifiés comme étant, je sais pas moi, ou des petits loulous de banlieue, ou des gens d'extrême droite, ou etc. C'est monsieur et madame tout le monde. On a la possibilité à tout moment de s'imaginer que ce qui arrive sur le plateau pourrait nous arriver.
Et c'est d'ailleurs une volonté initiale de l'auteur qui revendique l'idée d'un théâtre politique.
J'ai pas voulu ni en faire quelque chose d'historique parce que ça dédouanerait. Ah, et moi j'ai pas vécu à cette époque. Ni quelque chose d'ancré dans une seule réalité. Ah, c'est des fous. Ça se passe dans un hôpital psychiatrique. Moi je suis pas fou, donc je n'ai pas à voir là-dedans. Ça se passe pas non plus forcément dans le monde du travail parce qu'on pourrait se dire ah ben moi je ne travaille pas dans ce monde-là donc je suis exonéré de cette violence-là. C'est une mécanique et de la mécanique on ne peut pas s'exonérer. Elle est là et il faut faire avec. Donc c'est la mécanique de l'être humain, de la violence. C'est presque une pièce sociologique finalement.
La pièce a été écrite il y a 10 ans, Fanny, mais on ne peut pas s'empêcher de penser à des thèmes qui sont plus que jamais d'actualité.
Oui, notamment l'immigration. La seule chose que l'on sait sur cette victime, qui semble avoir été choisie de manière un peu aléatoire, c'est qu'elle ne vient pas du même endroit. Il est question de papier notamment.
Tu as le papier, toi ?
Le papier ?
Le papier ? Un nom, prénom, matricule, nom du père, nom de la mère, dis-moi, enfant de bâtard ou pas ?
Oh, nationalité. Nationalité, importante nationalité.
D'où tu viens ? Où tu vas et pourquoi ?
Donc il est, on s'en fout du moment qu'il y retourne.
La pièce s'appelle donc Asphalt Jungle, mais le texte écrit par Sylvain Levet porte le titre « Pour rire, pour passer le temps ».
Et on pense notamment au film Funny Games de Michael Haneke, notamment lors de certains passages. Ici, celui qui a été désigné comme victime est debout sur une chaise, main sur la tête et pistolet braqué sur la tempe, contraint un sinistre décompte.
Si je compte jusqu'à 9, qu'il est beau, mon 9 dans mon panier, tout 9 dans mon panier, tout
neuf dans mon panier, tout neuf dans mon panier, tout neuf dans mon panier, tout neuf dans mon panier, tout neuf.
Attends, il va dire le dernier.
Dix.
Bravo!
Comptez jusqu'à 10, ça sert à rien, mais ça fait passer le temps. Comptez jusqu'à 10 pour rire.
Glaçant, en effet.
Et ce qu'il y a de terrible, Jean-François, dans cette pièce, c'est de ne pas comprendre les raisons de ce déchaînement de violence. Les personnages semblent pourtant presque interchangeables. Écoutez l'acteur Ian Josso.
Tout le monde est un peu chef d'orchestre dans la pièce. C'est selon, effectivement, le tempo que va donner un comédien. Et ben, la scène qui suit va s'orienter plutôt comme ça. Puis la scène d'après, tac, c'est un autre comédien qui va donner sa réplique différemment. C'est ça la force de la pièce. Faut qu'on soit à l'unisson. On joue la même partition, mais les tempos peuvent changer. Il y a un côté un peu free jazz.
Dans le texte, il n'y a d'ailleurs aucun prénom ou identification, il porte uniquement un numéro et ce sont bien les relations entre ces personnages qui portent la pièce, comme l'explique un de ces numéros, Ghislain Delpino.
C'est une écriture un peu singulière, enfin très singulière, dans la mesure où effectivement les phrases sont très courtes, où c'est, ça pourrait faire penser à des formes de musique de chambre. Moi j'aime bien cette image-là, où chaque instrument va intervenir par des petites notes. On se retrouve tous finalement à devoir traverser comme ça la pièce en intervenant par bribes. Il n'y a pas de monologue, il n'y a pas de longue tirade, ça n'existe pas dans cette pièce.
Et alors vous, en tant que spectatrice, Fanny, comment est-ce que vous êtes ressortie de la pièce ?
Éprouvée, d'autant plus perturbée que le spectacle se conclut sur ces mots.
Je peux sortir. Pourquoi faire ? Vomir. C'est que le début. Serre les dents.
Asphalt Jungle à la Manufacture des Abbesses à Paris jusqu'au 13 octobre.
No hell below us, above us, holy sky.
Vous le suivez de près, Alain, Jean-Jacques Milteau, le plus populaire des harmonicistes français, qui a accompagné, pour ne citer que Yves Montand, Eddie Mitchell, Jean-Jacques Goldman ou Renaud, et qui est d'ailleurs connu bien au-delà des frontières françaises, est donc au générique de l'album Cross Border Blues, en trio avec le chanteur-guitariste canadien Harrison Kennedy et le contrebassiste français 3-2-1-0, et le contrebassiste français Vincent Segal.
12 titres personnels ou repris qui sortent ce vendredi, comme le fameux également What's Going On de Marvin Gaye. Mais quelle résonance à cette chanson 47 ans plus tard, Jean-Jacques Milteau.
On peut toujours se demander qu'est-ce qui se passe. C'est What's Going On, qu'est-ce qui se passe. On est confronté à une montagne de stupidité. Quand on réfléchit, qu'on s'éloigne un peu, qu'on prend un peu de recul, on entend des conneries tous les jours, hallucinantes. Et en fait, on est bombardé de conneries et on n'a plus le temps de réfléchir. Pour moi, c'est qu'est-ce qui se passe ? Oui, c'est vraiment ça la question.
Mother, mother, there's too many of you crying. Brother, 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 there's too many of you dying.
What's Going On, revu par Kennedy, Milteau et Segal.
Autre morceau d'anthologie réinterprété par ce trio, Georgia in My Mind, révélé grâce à Ray Charles, évidemment.
Georgia, Georgia.
C'est important que Ray Charles les chantait, parce qu'en fait il s'est retrouvé à un croisement. À une certaine époque, il a signé avec une marque de disques pour faire des disques de country, ce qui était tout à fait inattendu de la part d'un musicien noir qui était très identifié à la fois dans le jazz et dans la soul, puisque c'est un des créateurs de la musique soul quand même, avec Sam Cooke et quelques autres artistes américains. Et le fait qu'il ait été crossover, comme on dit maintenant, sur un certain nombre de choses, notamment en réinterprétant plusieurs fois cette chanson de Georgia dans son répertoire, c'est aussi significatif. Je crois qu'il y a un vrai bond en avant de à l'époque, en termes de connaissances intercommunautaires, je dirais, pour pas parler de l'époque des droits civiques, qui a été due à la musique.
Jean-Jacques Milteau, Vincent Segal, Harrison Kennedy. Kennedy, auteur-compositeur notamment du morceau Blues Solution, pour lequel le blues n'est pas une musique triste, c'est, dit-il, une musique qui vous aide à surmonter la tristesse et les épreuves. Qu'en est-il pour Jean-Jacques Milteau ?
C'est une musique qui m'a touché quand j'étais adolescent, bien que j'aime beaucoup d'autres styles musicaux et d'autres formes d'expression artistique. Le blues reste toujours une forme de vocabulaire pour moi, qui va à l'essentiel. Et c'est pour ça que j'étais très content qu'Harrison accepte cette collaboration, parce que cette forme d'expression, même si tous les morceaux ne sont pas des blues, hein, vous parlez de Georgia et What's Going On qui ne sont pas des blues dans la forme, je parlais de spontanéité, de sincérité tout à l'heure, qui sont quand même indispensables pour que ça fonctionne.
It stares us in the face. We are members of this human race.
Kennedy, Milteau Segal dans Blues Solution. Alors Alain, ce disque rend hommage également, entre autres, à T-Bone Walker.
Via l'une de ses compositions, T-Bone Shuffle, et Jean-Jacques Milteau ne tarit pas d'éloges à son sujet et sur ce qu'il a pu apporter au blues.
T-Bone Walker, c'est un type tout à fait extraordinaire. C'est une sorte qu'est-ce qu'on pourrait dire, de Django Reinhardt du blues. C'est un type qui est originaire du Texas et qui, comme beaucoup de ses compatriotes, a émigré en Californie pendant la guerre, parce que c'est là-bas qu'il y avait du boulot. Et il transcendait la guitare électrique. En fait, je sais pas s'il n'était pas à l'école avec Charlie Christian, qui était un autre grand guitariste de l'époque aussi, mais qui lui a évolué vers le jazz. Et T-Bone Walker a évolué vers le blues, et une sorte de blues, rhythm and blues, en fait, avec un grand orchestre à cordes. Et c'était quelqu'un de très, très démonstratif. Et il a beaucoup promu, je dirais, l'instrument guitare électrique dans le blues. Je pense que des gens comme B.B. King, notamment, lui sont très, très redevables.
T-Bone Shuffle par Kennedy, Milteau et Segal, qui s'approprie également de Thrill Is Gone de B.B. King, interprété aussi par Aretha Franklin, partie il y a peu, une disparition qui n'a pas laissé Milteau indifférent.
La musique d'Aretha Franklin, elle-même en tant qu'interprète, me faisait un effet physique, c'est-à-dire ça me faisait dresser les poils littéralement chaque fois qu'elle chantait. Et je crois que c'est une espèce de raccourci entre l'âme et le corps, quoi. Il y a quelque chose qui de tellurique dans son expression, à une telle force, une telle puissance, quand t'as exprimé un truc qu'on est décoiffé, quoi. The thrill is gone.
The thrill is gone away. Quel effet cela vous fait-il de vous voir dans le dictionnaire à côté de la Vénus de Milo ?
Les bras m'en tombent. The thrill is gone,
baby. Harrison, Milteau Segal qui sont en concert le 28 septembre à Montpellier dans le cadre des Internationales de la Guitare, ensuite le 3 octobre à Rouen à la Chapelle Corneille, le 6 à Pont-l'Abbé au Triskel et le 8 à Paris au Café de la Danse. Merci Alain, merci également à vous Fanny, Margot et Sébastien. The thrill is gone. It's gone away. Me. The thrill is gone, baby. The thrill is gone away from me. Although I'll still live on, but oh, so lonely I will be. Dans un instant, le journal sur RFI. On se retrouve lundi avec un des grands films de cette rentrée cinéma, primé d'ailleurs à la Mostra de Venise, Les Frères Sisters. Le réalisateur Jacques Audiard sera notre invité et vous m'en direz des nouvelles.